Bonjour à tous. Avant toute chose, avant de commencer à prendre la parole de Dieu, j'aimerais vous saluer bien chaleureusement, fraternellement, parce que je m'aperçois que je connais beaucoup de membres de votre église, et franchement, je suis un petit peu chez moi ici. Je ne sais pas si vous me permettez de le dire, mais en tout cas, avec mon épouse et nos deux enfants et demi, vous remarquerez que ma femme est sur le point d'accoucher. Comment pouvoir vous saluer autrement que par un texte de la parole? Vous connaissez sûrement ces deux premiers versets d'Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à la rue Sonnera et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de commencer, je suis un petit peu, stupéfait par mon Dieu, par votre Dieu, parce que, en choisissant ce thème de ce matin, j'ai dû appeler quelqu'un chez vous pour avoir des infos un petit peu, savoir qu'est-ce que vous traitiez en ce moment comme sujet. Et après avoir choisi le sujet de ce matin, et arrivé chez vous ce matin, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a montré à trois reprises que le sujet était d'actualité. Les psaumes que tu as lus, cher frère. Le fait que notre frère d'Algérie soit ici présent. Et le fait que dans les annonces, tu aies parlé d'Éric Gaumann, parce que je vais en parler aussi. Et un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et vous allez comprendre dans la suite. J'aimerais parler avec vous ce matin de la persécution de l'Église et des chrétiens. Donc la semaine dernière, on a eu l'opportunité d'avoir Éric Gaumann chez nous, qui nous a donc partagé les sujets d'actualité concernant tous les pays qui sont persécutés. Et je pense que vous connaissez Portes Ouvertes, donc j'en parlerai pas plus. Mais pour moi, en fait, le sujet de ce matin, c'est est-ce que ce sujet-là de la persécution, c'est un sujet qui est lointain pour nous? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que c'est la persécution pour toi? Finalement, on est en France. Moi, tous les matins, je me lève. Si je veux aller à l'église, j'y vais à pied, j'y vais en courant, en vélo, en voiture. Personne ne va m'empêcher d'y aller. Et je pense que c'est pareil pour vous. Si je veux sortir une Bible dans un supermarché, à Perrache, pour vous, je ne sais où, personne ne va vous sauter dessus, va vous mettre en prison, va vous frapper. Et donc, je me suis posé la question, en fait, comment nous, on devait percevoir la persécution. Et vous verrez que finalement, elle est aussi chez nous, la persécution, peut-être sous un aspect différent. Alors, on va définir ensemble la persécution. On va essayer de trouver quelques mots pour parler de ce mot qui fait peut-être un peu peur. Pour moi, c'est une opposition entre la réalité que la vie que Dieu nous propose, la vie promise par Dieu, belle, pure, et la vie triste, trompeuse, que le monde nous propose. C'est l'opposition entre ces deux mondes. C'est dans un certain cas tout simplement l'interdiction de parler de Dieu, l'interdiction de s'approcher de Dieu. Alors, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est que d'être persécuté, parce que je n'ai jamais été physiquement parlant, comme dans beaucoup de pays autour de nous. Je n'ai jamais été confronté à une épreuve concernant ma foi, au point où j'ai été mis en prison, j'ai été frappé. Et un pasteur, M. Wilkerson, je ne sais pas si vous connaissez, qui était d'une église de Times Square, qui est au Seigneur maintenant, a dit que pour lui, la persécution produit l'angoisse. Et dit « L'angoisse est une douleur aiguë, ressentie profondément à cause de la condition extérieure, par rapport à vous, à l'intérieur de vous et autour de vous. » C'est un peu compliqué, son explication de la persécution, mais il y a un autre livre qui parle de façon plus imagée peut-être de la persécution avant de s'approcher de la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez Le Voyage du Pèlerin? C'est un récit d'un jeune homme qui s'appelle Chrétien, qui va se frayer un chemin depuis la cité de la destruction jusqu'à la cité céleste. Et je vous en lis un petit morceau. Chrétien s'approcha de la source et se rafraîchit en buvant de son eau. Puis il commence à monter en chantant. De ce mont, la pente raide semble impossible à surmonter. J'entreprends pourtant d'y monter, avec un courage intrépide. On ne craint nullement la peine lorsqu'on a devant les yeux le prix céleste et glorieux d'une félicité certaine. Mieux vaut suivre la droite voie parmi les soupirs et les pleurs que de suivre un chemin de fleurs pour être de la mort la proie. Suivre la vie que Christ nous propose, selon le pèlerin, c'est s'engager dans une voie qui est droite, certes, mais remplie de soupirs et de pleurs. Matthieu 7, versets 13 et 14 nous enseigne « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Alors, je vous ai mis en condition, et je pense que vous avez compris qu'on ne va pas parler de choses joyeuses ce matin, mais malgré tout, je pense qu'il est important, vraiment important, de prendre ce sujet au sérieux. Parce que même si aujourd'hui nous ne sommes pas persécutés, Dieu nous demande de nous y préparer. Est-ce que c'est nos épreuves, nos tentations, nos querelles, nos doutes, nos affronts qui peuvent être considérés comme de la persécution? Ou simplement, est-ce que c'est le fait d'être chrétien, d'appartenir à Christ, qui fait de nous un peuple persécuté? Que nous dit la parole? Qu'est-ce que vous a dit la parole le jour où vous êtes converti? Est-ce que le jour où vous êtes tourné vers Christ, on vous a dit « Sois sans crainte, mène en ta Dieu, ça va tout rouler. Tu vas être en bonne santé, tu vas avoir de l'argent, ta femme sera merveilleuse avec toi, tu auras une bonne maison, une belle voiture, tout nickel. La prospérité. Bon, » il y a des églises qui en parlent, hein, mais je ne suis pas de ces gens-là. En tout cas, si on vous a présenté l'évangile comme ça, croyez-moi, on vous a menti. On vous a trompé. Parce que Dieu, vous connaissez ce chant, Dieu n'a pas promis que des cieux bleus, mais il a promis d'être avec nous chaque jour. On ne vit pas dans un monde parfait, dans un monde déchu. Romains 8, 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors, on est d'accord, je pense, à vos têtes, à vos visages, on est d'accord pour dire que être chrétien ne signifie pas qu'on est exempt de tout problème, de tout souci. Mais au contraire, Paul nous dit qu'il faut combattre le bon combat, le combat de la foi. On doit suivre celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Nous devenons, en acceptant Jésus-Christ, une petite image que j'aime bien, les saumons rebroussant chemin dans un fleuve tumultueux de la vie de ce monde. On est des étrangers sur cette terre. On est des étrangers qui ont une mission à accomplir sur cette terre. On ne peut pas se refermer, s'enfermer complètement. On est là pour quelque chose. Vous savez ce que c'est? Vous pouvez me le dire? Vous m'avez dit, vous saviez. Hein, on est là pour annoncer l'évangile. Annoncer la parole. Que nous apprend la parole sur la persécution? Que nous apprend Jésus sur la persécution, puisque lui-même a été le premier à être persécuté? Alors, un petit rappel quand même, pour vous rassurer. La persécution, ce n'était pas notre dû à nous personnellement, mais c'est celui de Christ. Mais si nous ne sommes pas la raison de la persécution, lui, il porte le sceau de la persécution. La parole nous rapporte que peu ont compris l'importance du message de l'Évangile. Mais beaucoup ont condamné les propos de Jésus et l'ont crucifié sans savoir. Vous vous rappelez des derniers mots de Jésus? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Vive avec Christ, c'est vive la persécution. Waouh. 1 Pierre 2, 20 et 21. En effet, quelle gloire y a-t-il si, étant frappé pour avoir commis des fautes, vous l'endurez? Mais si vous souffrez tout en faisant le bien et que vous l'enduriez, c'est une grâce devant Dieu. Mais c'est à cela, en effet que vous avez été appelés. Je vais le relire. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. Que nous, ici, ce matin, on a été appelés. Parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est intéressant ce que dit Pierre, parce que la première idée qu'il développe, c'est de dire, ben, si tu souffres parce que tu as fait une ânerie, ben, quelque part, tu peux pas en tirer de la gloire, c'est bien fait pour toi. Et si tu souffres parce que tu fais du bien, eh ben, tu n'auras pas de gloire non plus. Parce que c'est une grâce devant Dieu. Alors, si vous êtes comme moi, ça vous choque. Parce qu'on n'aime pas nous dire ça. J'aime pas me dire ça à moi-même, donc je suppose que de vous le dire à vous, c'est pas agréable non plus. Comment est-ce que je peux vous dire ça? Comment est-ce que la Bible nous dit ça? Et je crois qu'il y a quelque chose d'important à comprendre avant toute chose. C'est d'abord comprendre qui est Dieu. Est-ce que je suis dans ses mains? Est-ce que je suis du verbe être? Est-ce que je représente à ses yeux? Je suis son enfant. Et dans le psaume que nous a lu Guy ce matin, on le voit très bien. David crie à Dieu, parle de ses malheurs qui arrivent au juste, mais il dit que Dieu n'abandonnera pas son enfant. Et si on a conscience de ça, alors on peut être prêt à souffrir pour Christ. Je vais vous montrer quelque chose. Et Dieu sait que ça m'a servi souvent. C'est ma Bible, une de mes Bibles. Ma femme m'a acheté cette couverture. Est-ce que Guy, tu peux nous lire juste le titre? Non? Footprint. Ok? Ça veut dire les pas dans le sable. Vous connaissez ce poème? Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette dame? Son histoire est incroyable. Elle a écrit ce poème quand elle était enfant, quand elle était jeune. Et elle a traversé une multitude d'épreuves avant de se rattacher à ce poème et de nouveau de se retourner vers le Seigneur. Ce poème, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme qui marche sur le sable et qui souffre. Et qui se tourne vers le Seigneur et dit, mais je comprends pas, Jésus, tu m'as promis que tu serais avec moi tout le temps. Et là, je me retourne, et quand je vois sur le sable les traces de pas, les périodes de ma vie où j'ai le plus souffert, il n'y a qu'une seule trace de pas. Et je comprends pas, tu devais être avec moi, et il n'y en a qu'une. Alors que dans les autres moments, les moments où j'étais au culte, où j'étais en pleine forme, où tout allait bien, ben, y en avait deux. Et quand je souffrais, il n'y en avait qu'une. Pourquoi? Et Jésus le regarde et lui dit, mon fils, quand il n'y a qu'une seule trace de pas, c'est que je suis en train de te porter. Et combien de fois on a vécu ça en se plaignant, en imaginant une seule seconde que le Dieu créateur de la terre, de l'univers, créateur de tout ce que je suis devant vous, au moindre millimètre carré, puisse m'abandonner une seule seconde. Déjà, ce n'est pas une vérité biblique. La Bible dit l'inverse. Il n'y a pas un seul cheveu sur ma tête qui n'est pas compté, qui n'est pas important aux yeux de Dieu. Nous sommes appelés à souffrir pour Christ et comme Christ. Pierre nous dit que nous allons souffrir en faisant le bien. C'est intéressant parce que le bien, dans ce passage-là, c'est la volonté du Père. La deuxième épître à Timothée nous dit « Or ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est encore pas marrant cette histoire-là. Parce que si vous êtes là ce matin, vous avez tous, j'espère, envie de suivre Christ. Et pour autant, Timothée nous dit, si tu veux suivre Christ, pieusement, alors tu vas souffrir. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est pas une option, c'est une réalité. Parlez-en à nos frères qui sont dans les pays persécutés. Parlez-en avec eux. C'est une grâce, nous dit Pierre, c'est une grâce devant Dieu de souffrir pour lui. Et il va même plus loin parce qu'il nous dit qu'on a été appelés à ça. Relisez Éphésiens 1, tout le premier chapitre, et vous verrez, on a été choisis, élus, prédestinés, appelés pour être avec Dieu, pour être avec lui et pour le servir. Est-ce que c'est ma réalité de tous les jours? Est-ce que je suis suffisamment bouillant pour le Seigneur, proche de sa volonté, à un point où je suis dérangé, persécuté, embêté? Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, nous dit Apocalypse 2:4. Alors pourquoi je vous lis ce verset? Alors qu'on parle de la persécution. Parce que pour moi, et j'ai envie de dire pour la parole, abandonner son premier amour, c'est tout simplement le résultat d'une vie qui est tiède avec le Seigneur. Et on ne peut pas persécuter quelqu'un qui a abandonné le Christ. C'est gagné. Il a abandonné le premier amour. Je n'ai pas besoin de lui faire du mal. Est-ce que c'est pas un peu nos pays occidentaux aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas là-dedans en ce moment? Apocalypse, un peu plus loin, 3, 15 et 16 nous dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pour être des témoins efficaces, nous ne devons pas nous laisser lisser par l'usure de la vie de tous les jours ou par des épreuves décourageantes. Mais nous, on doit se souvenir de cet amour si fort et si puissant que Dieu a mis dans notre cœur. Cet amour que Jésus a eu pour toi, a eu pour moi, à la croix. Vous connaissez sûrement 1 Corinthiens 13, et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Je laisse le prendre. 1 Corinthiens 13. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de transmettre des messages inspirés, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les messages inspirés cesseront, le don des langues prendra fin, et celui de la reconnaissance cessera. Je sautais au dernier verset, verset 13. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Nous devons apprendre à conserver cet amour dont on vient d'avoir la description, intact dans notre cœur, pour continuer à grandir avec Dieu, pour continuer à témoigner, afin que Dieu puisse nous utiliser à étendre son royaume ici. Alors pourquoi le monde noué? Vous avez une idée? La première chose qui vous vient à la tête, pourquoi est-ce que le monde déteste le chrétien? Parce que le monde n'aime pas la justice. Allez-y. Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Dans Jean 15, 19 à 21, Jésus nous dit, si le monde vous hait, sachez, qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Et parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi en vous tirant du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre aussi. Mais toutes ces choses, ils vous les feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Ce qui est intéressant, c'est que si le monde nous hait, c'est parce que Christ nous a choisis. C'est ce qui est dit. Moi, je vous ai choisis en vous tirant du monde. La persécution du monde envers nous vient aussi du fait qu'ils ont d'abord persécuté Christ, et donc par conséquent, nous allons être persécutés, ou nous le sommes. Et si on est persécuté, c'est à cause du nom de Jésus. Vous avez entendu déjà ces histoires dans des pays musulmans où des hommes sont arrêtés et on leur dit « refuse le nom de Christ ». Et la seule chose qu'ils ont à la bouche, le seul mot qui est capable de sortir de leur bouche, c'est Jésus. Et il le répète continuellement, Jésus, Jésus, Jésus. Vous imaginez l'amour de ces hommes traqués pour Christ, pour Jésus. Et vous savez, le pain et le vin qu'on vient de partager ensemble, c'est ça cette relation intense dont on veut se souvenir. C'est une relation entre nous et Jésus, le Fils de Dieu. Et la persécution dans ces milieux-là, pousse ces hommes et ces femmes à aimer tellement Christ qu'ils le mettent réellement en premier plan, réellement à la première place. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que je suis prêt à vivre ça? Un autre élément de la persécution dans le monde, tout à l'heure, Jean-Lionel nous a dit quelque chose, il a parlé de ce livre. Combien de Bibles tu as dit qui avaient été distribuées? 50 000 je crois, hein, c'est ça. 50 000 Bibles. Vous savez, ou peut-être pas, que pendant les Jeux Olympiques de Chine, vous ne pouviez pas rentrer sur le sol chinois avec une Bible. Si on trouvait une Bible à l'aéroport, on vous demandait gentiment de la laisser à l'aéroport. On ne rentre pas en Chine avec une Bible, comme ça. Et celle du téléphone, bah, il faut que tu prennes le téléphone. Mais bon. Tout ça pour vous dire que, pourquoi la Bible? Qu'est-ce qu'un livre? Pour ces hommes-là, qu'est-ce qu'un livre de plus? Mais ce livre est puissant, c'est la parole de Dieu. La parole vivante. Combien de fois on le dit dans nos cultes, la Bible est un livre puissant, la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Mais vous savez quoi? J'ai l'impression que ceux qui persécutent les chrétiens le savent plus que nous. Ils en ont peur de la Bible. Ils veulent pas que ça rentre sur leur territoire. Absolument pas. Portes ouvertes, vous savez ce qu'ils font, portes ouvertes. Ils organisent des voyages. Voyages. Et en réalité, tous les chrétiens qui partent, ils ont les bagages remplis. Prennent un peu de vêtements, hein, certes, mais bagages remplis de Bibles. Et ils amènent des Bibles, ils distribuent la Bible. Quand je témoigne à des gens, je leur parle de l'Évangile, quand on me dit « Oui, mais tu sais, ça, bon, ça, l'Évangile, oui, c'est bien pour toi, mais pour moi, peut-être que voilà, ça n'a pas d'intérêt. » Je leur dis « Tu sais, je connais des gens qui sont prêts à mourir pour avoir ne serait-ce qu'une page de la Bible. C'est pas possible. » Tu dis ça parce que tu veux me vendre quelque chose. Tu dis non. Regarde la carte du monde, regarde les chrétiens persécutés. Tous ces gens-là sont obligés de se cacher, sont obligés de faire maintes et maintes choses avant d'arriver à un lieu pour pouvoir juste lire la parole. Et ils n'ont pas tous une Bible dans les mains. Et pourtant, Dieu leur parle. Alors on va revenir un petit peu plus proche, ici à Lyon. Quelle persécution pour nous, ici? Est-ce que vous êtes persécuté, vous, ce matin? Est-ce que vous vous sentez gêné dans votre foi? Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à votre place. En tout cas, ce que je sais, c'est que la parole nous l'a dit, on a lu beaucoup de textes pour dire qu'on est censé être persécuté. Le monde nous hait et refuse la parole. Mais ce n'est pas la seule persécution qu'on peut vivre. On peut souffrir aussi de voir nos familles, des amis, des proches refuser de suivre Christ. Et en plus, nous reprocher de suivre Christ. Et on va parler d'un mot que j'aime beaucoup. L'intégrité biblique dont nous devons faire preuve face au style de vie rempli de compromis qui nourrit notre entourage, c'est ça pour moi la persécution dans notre milieu. Ici à Lyon, si vous êtes intègre, forcément à un moment donné, et plus le temps passe et plus ça se rapproche rapidement, forcément, on va avoir des soucis. Vous avez jamais entendu on vous traite d'intolérant? On dit, mais vous les chrétiens, vous êtes intolérants. Deux hommes s'aiment, mais pourquoi vous voulez pas qu'ils se marient? Enfin, vous êtes intolérants, c'est pas possible. Votre Dieu, c'est pas un Dieu d'amour. Regardons ce que la Bible dit sur l'intégrité. Job 1, 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Si on vit comme Job, et si Dieu pouvait nous dire ça de nous, ce serait déjà un miracle, je pense, mais si on pouvait vivre comme Job, est-ce qu'on aurait des soucis à Lyon, par exemple? Psaume 27, verset 1 nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Je vous avoue que j'ai du mal aussi à le vivre chaque jour et à me le rappeler, à avoir ça en tête quand je proclame des vérités en disant « Non, vous pensez ça? Moi, je ne suis pas d'accord. La Bible, elle dit ça. Ah, mais la Bible, c'est un vieux bouquin. Ouais, un bouquin qui a été distribué à 50 000 exemplaires encore. » La persécution aujourd'hui pour nous, c'est une prise de position dans notre témoignage. On ne va pas parler d'une prise de position en interne, par exemple ici dans une église ou dans des familles chrétiennes, mais on va parler de prises de position externes, qui sont plus engageantes, plus risquées. Vous avez déjà parlé à un professeur des écoles de ce qu'il pense de la théorie du genre ? Pire, vous avez déjà posé la question à un professeur des écoles chrétien de ce qu'il pense de la théorie du genre et de comment il va faire pour s'en sortir quand on lui imposera d'enseigner certaines choses. Je voudrais juste vous rappeler une seule chose, parce que la Bible a de nombreuses ressources pour nous aider dans ce genre d'opinion-là à répondre. On a beaucoup d'outils, beaucoup, beaucoup. Donc ce n'est pas moi qui vais répondre à ces opinions qui sont différentes des nôtres. Mais par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que Dieu nous demande de ne pas juger la position adverse, ni les personnes qui défendent ces positions. Et c'est souvent ce qui nous fait défaut. Parce que par réaction, on condamne. On dit c'est mal, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Vous avez déjà parlé, annoncé l'évangile à des homosexuels ? Vous savez comme c'est dur de leur faire comprendre l'amour que Dieu a pour ces hommes-là ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sentent dans nos regards le jugement. Ils sentent la condamnation dans nos regards. Et je veux juste vous lire Matthieu 7, versets 1 à 3. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Alors vous allez me dire, c'est super simple, un bon exposé sur la persécution, les textes bibliques qui appuient ce que tu dis, mais aujourd'hui on en fait quoi ? Comment on vit ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors tout d'abord, pour moi c'est une histoire d'amour. On doit répondre à la haine de ce monde pour nous par l'amour que Dieu, dont Dieu a fait preuve pour nous. Dans 1 Corinthiens, on a déjà vu le type d'amour dont il nous a aimés, et ce même amour, on doit le rendre au monde. Ce qui est compliqué puisqu'effectivement, il nous déteste. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est en cela qu'il sera chaque jour avec nous. C'est en cela qu'il sera tout le temps avec nous. Le plus beau témoignage du chrétien persécuté, vous pouvez en trouver, je ne sais pas combien, sur le site de Portes Ouvertes, et sur ses mails aussi, le fil rouge, je ne sais pas si vous connaissez. C'est celui du chrétien qui pardonne à son bourreau avant l'exécution. Incroyable. Ça, c'est un témoignage véritable, rempli d'amour pour un homme qui ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Je ne l'ai jamais vécu, bien évidemment, mais je pense qu'on doit s'y préparer. Et vous savez, je dois apprendre à mes filles l'amour, la joie, la paix que procure la vie avec Jésus. Mais la joie parfaite, l'amour parfait, qui doit être notre identité en Christ. Si je comprends qui je suis en Christ, alors je pourrai comprendre cet amour et je pourrai parler de cet amour. Je vous laisse aussi un passage qui me parle souvent. Quand je doute, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Vivre sa paix, la paix de Christ, est plus fort que de se voiler la face avec une paix de substitution, fausse et éphémère. J'espère qu'on en a conscience. Mais mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, 38. C'est une devise que on doit s'approprier et on doit garder avec nous chaque jour. Un autre élément après l'amour, un autre élément de réponse, c'est la prière. Mais un certain type de prière. Je vais prendre l'exemple de Néhémie 1,4, qui nous dit « Et lorsque j'entendis ces paroles, du fait que son peuple était bien en fait ailleurs que dans le pays promis. Et finalement, ils étaient déportés, mais ils se sentaient à l'aise. Ils voulaient presque même plus rentrer chez eux. Et Néhémie, ça l'attriste. Et lorsqu'il entendit ces paroles, je m'assis et je pleurais. Et je menai le deuil plusieurs jours, jeûnant et priant devant Dieu, devant le Dieu des cieux. » La prière de Néhémie, la souffrance de Néhémie pour son peuple, son fardeau, était de voir ce peuple se confondre, rentrer dans le compromis dans une ville étrangère. acceptant les rites et les dieux étrangers, sans avoir aucune crainte de Dieu, leur Dieu. Alors on doit apprendre à prier les uns pour les autres. On doit apprendre à prier pour nos frères persécutés, mais aussi pour chacun d'entre nous, ici dans cette pièce. Et vous savez pourquoi on doit prier ? Quel est le premier sujet qui doit venir dans ma tête quand je pense à vous ? C'est votre croissance spirituelle. Et si je prie pour vous dans ce sens-là, je vous en supplie, priez aussi pour moi dans ce sens-là. Parce qu'on en a vraiment besoin. Je continue avec cette prière d'intercession de Paul à l'église d'Éphèse, Éphésiens 1,15. Et en fait, cette prière, je vous l'adresse. C'est une prière que je vous laisse ce matin. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, ici, vous sonnera, votre foi au Seigneur Jésus-Christ et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église de Rusenra, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors je ne sais pas si vous êtes prêts ce matin à entendre ce message, mais en tout cas c'est ma prière. Et je vais vous laisser un passage, un texte, qu'un prêtre a écrit il y a quelques centaines d'années, un prêtre français. Il y en a beaucoup qui désirent le céleste royaume de Jésus, mais peu consentent à porter sa croix. Beaucoup souhaitent ses consolations, mais peu aiment ses souffrances. Il trouve beaucoup de compagnons à sa table, mais peu de son abstinence. Tous veulent partager sa joie, mais peu veulent souffrir quelque chose pour lui. Plusieurs suivent Jésus jusqu'à la fraction du pain, mais peu jusqu'à boire le calice de sa passion. Plusieurs admirent ses miracles, mais peu goûtent l'ignominie de sa croix. Plusieurs aiment Jésus pendant qu'il ne leur arrive aucune adversité. Plusieurs le louent et le bénissent tandis qu'ils reçoivent ses consolations. Mais si Jésus se cache et les délaisse un moment, ils tombent dans le murmure ou dans un excessif abattement. Mais ceux qui aiment Jésus pour Jésus et non pour eux-mêmes le bénissent dans toutes les tribulations et dans l'angoisse du cœur comme dans les consolations les plus douces. Et quand ils ne voudraient jamais les consoler, toujours cependant, ils le loueraient, toujours ils lui rendraient grâce. Amen. Je voudrais prier pour terminer. Seigneur, Père éternel, quelle grâce, quelle joie, quelle paix, Seigneur, de t'appartenir, d'appartenir à Christ, d'appartenir à ce royaume, Seigneur, de pouvoir te servir. Et nous ne connaissons pas, Seigneur, des tribulations comme nos frères et sœurs dans ces pays persécutés, Seigneur. Mais nous allons en connaître. Nous allons connaître des choix à faire. Nous allons vivre une intégrité pure avec toi, Seigneur. Et ça va être compliqué. On te demande de nous fortifier, de nous remplir de ta présence, Seigneur, et de toujours tout faire pour ta gloire, Seigneur. Amen.